Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Un podcast France Culture.
Ils l'ont vécu. 26 avril 1986, la catastrophe de Tchernobyl. Troisième épisode, choc mondial et course contre l'atome.
28 avril.
Un accident s'est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Un des réacteurs est endommagé. On procède à la liquidation des conséquences de l'accident. Les victimes sont prises en charge. Une commission gouvernementale a été mise en place.
Katastrofen i Sovjet. Ännu vet vi inte hur omfattande den är.
Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Tschernobyl in Unione Sovietica
coinvolgono in der Ukraine sind nach vorläufigen Angaben zwei Menschen ums Leben gekommen und vier Ortschaften mussten
exceptionnellement la nouvelle n'a précisé ni la date ni les conséquences de cet accident.
Bonjour. Inquiétude et perplexité après l'accident qui s'est produit dans une centrale nucléaire en Union soviétique près de Kiev. Inquiétude parce qu'il est impossible de savoir exactement quelle a été la gravité de cet accident. À Stockholm, Alain Bergwitz.
30 heures ont passé depuis que les services de sécurité de la centrale nucléaire de Forsmark en Suède centrale ont annoncé l'existence d'un taux anormalement élevé de radioactivité autour de la centrale. 3 à 4 fois supérieur à la normale. Aussitôt, l'alarme était donnée et les mesures de sécurité prises. On constatait bien vite que la centrale n'était pas à l'origine de la catastrophe et qu'un nuage de particules radioactives se déplaçait au-dessus de la Scandinavie en provenance de la Baltique. Et c'est seulement dans la soirée que l'URSS confirmait l'accident nucléaire survenu en Ukraine, sans fournir d'autres précisions. Le ministre suédois d'énergie et de l'environnement, Madame Birgitta Dahl, s'est montrée, elle, très étonnée par le fait que les soviétiques ont attendu si longtemps avant d'annoncer l'accident et les contacts diplomatiques ont été pris à un haut niveau pour avoir de plus amples informations. Car, selon l'Institut national suédois des radiations, on estime qu'il s'agit là d'un accident très grave et qui pourrait remonter à samedi dernier.
Journal de Vladimir Yatskevitch, docteur en sciences techniques et habitant de Gomel en Biélorussie.
26 avril. Journée chaude et ensoleillée. Le matin, toute la famille est partie en voiture et une demi-heure plus tard, nous étions dans la prairie de Melnik. Les arbres étaient déjà recouverts d'un feuillage touffu, l'herbe était moelleuse. L'eau de la rivière était encore trouble, comme toujours au printemps. Nous avons joué au ballon, cueilli de jeunes pousses d'oseille, petit déjeuner sur la berge haute, sous les chênes. Des filles batifolaient comme des chatons. Ce serait bien de venir ici plus souvent.
Alors évidemment, Michel Forgit, en l'absence d'informations officielles sur ce qui s'est réellement passé à la centrale de Tchernobyl, on en est réduit aux hypothèses, c'est donc le cœur d'un des réacteurs qui a fondu.
Il a fondu et la situation n'est pas du tout maîtrisée, ça continue, puisque le graphite qui sert de modérateur dans la réaction a commencé à brûler et que les soviétiques ne savent pas l'éteindre. Alors ça va brûler jusqu'au bout, combien de temps on n'en sait rien, mais à chaque minute qui passe, il y a de la radioactivité qui s'échappe. Bon, c'est pas terrible, mais il faut savoir que cette ville de Tchernobyl est au nord de Kiev et que le vent souffle dans le bon sens. Autrement dit, ça s'éloigne vers le nord et Kiev est à l'abri. Mais si le vent tourne, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer et les prochaines heures et les prochains jours seront décisifs.
Plus au nord, justement, de l'autre côté de la frontière biélorusse. Journal de Vladimir Yatskevitch.
28 avril. Hier, sur la BBC, j'ai entendu parler d'un accident dans une centrale nucléaire quelque part en Ukraine. Et aujourd'hui, étonnamment, Moscou en parle aussi. Ils font état de victimes parmi le personnel et d'une possible évacuation de la ville de Pripyat. J'ai trouvé cette ville sur la carte et j'ai mesuré la distance qui la sépare de Gomel. C'est loin. Ça ne viendra pas jusque-là. Et pourtant, ma belle-mère, Elena Stepanovna, a décidé de jeter notre oseille. J'ai voulu protester, mais je me suis souvenu qu'hier, en revenant du garage, je suis tombé dans un étrange tourbillon de sable. Et il faut dire qu'hier et aujourd'hui, il y avait un vent fort qui soufflait du sud.
29 avril.
Alors qu'officiellement, les autorités soviétiques n'ont toujours pas communiqué de nouvelles informations sur l'accident nucléaire de Tchernobyl, tout semble indiquer que là-bas, la situation n'a pas été totalement maîtrisée. Et ce qui l'indique le plus, ce sont sans doute les démarches soviétiques auprès de plusieurs pays occidentaux pour obtenir une assistance. Ainsi, auprès de la Suède, l'ambassadeur du RSS à Stockholm a demandé si la Suède avait l'expérience de la lutte contre les incendies dans les centrales nucléaires. Des informations ont également été demandées aux spécialistes ouest-allemands. Et d'ailleurs, le chancelier Helmut Kohl a répondu que l'Allemagne fédérale était prête à aider l'Union soviétique. De Moscou pour France Inter, Ulysse Gosset.
Igor Kostine, photographe, au micro du journaliste Dmitri Vinogradov. Du premier survol de la centrale en hélicoptère le 26 avril 1986 jusqu'à sa mort accidentelle en 2015, il a documenté au plus près, en images, les travaux de décontamination et suivi les habitants de la zone.
Sur le toit du réacteur, on a fait 1500 röntgen par heure, alors que la dose létale est de 500 röntgen par heure. Les premiers pompiers qui sont montés sur le toit ont reçu plus de 500 röntgen parce qu'ils y ont passé plus d'une heure. La commission gouvernementale a donc décidé, pour ne pas faire flamber des hommes, d'y envoyer des robots. Et c'est Bibi qui a été le premier à rencontrer ces robots. La personne qui m'a aidé à monter sur le toit était Sacha Yurchenko. Il m'a conduit sur le toit, il n'y avait encore personne, seulement les robots qui faisaient trrr, 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 trrr. Vous voyez, je m'avance puis un robot sort d'un coin. J'ai quand même réussi à appuyer trois fois sur le déclencheur. J'ai deux photos avec le robot. Puis je me suis enfui. Le robot japonais et le robot ouest-allemand ne pouvaient pas travailler sur le toit non plus. Les radiations étaient beaucoup trop importantes et ça faisait planter leur cerveau électronique. Et l'un des robots, je ne me souviens plus si c'était le japonais ou l'allemand, est devenu suicidaire. Le cerveau de ce robot a planté et il est parti vers les décombres et s'est jeté dedans. Et donc la commission gouvernementale a décidé qu'il fallait quand même faire quelque chose. On a décidé d'y envoyer des soldats. Le toit du troisième réacteur mesurait à peu près 50 mètres sur 50. Pour le déblayer, il a fallu 3500 soldats. On leur a amené des plaques de plomb dont ils ont découpé des morceaux pour se protéger la moelle osseuse, la moelle épinière, le cerveau, les testicules et pour faire des semelles. Et donc ces hommes, ces robots biologiques pour ainsi dire, sont sortis sur le toit et ont retiré le combustible radioactif pratiquement avec leurs mains. La civilisation humaine n'a jamais rien vu de pareil, que des hommes manient avec leurs mains un combustible avec des radiations allant jusqu'à 1500 röntgen. C'est tout simplement de la folie. Ils prenaient une pelle de combustible et la jetaient dans ce qui restait du quatrième réacteur. Une alarme leur indiquait quand sortir et quand rentrer. Ça durait entre 20 et 40 secondes en fonction des radiations.
Est-ce qu'en France, les systèmes de détection de la radioactivité ont constaté cet accident nucléaire ? Philippe Reltien a posé la question au professeur Pellerin du Centre de protection contre les rayonnements ionisants.
Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. La radioactivité en Suède est passée par une pointière qui n'était elle-même pas inquiétante. Au niveau que les Suédois qui sont chargés de mesurer ça viennent de nous annoncer, c'est sans aucun danger pour la santé publique.
Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France ?
Non, parce que les vents ne vont pas dans cette direction-là. Les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre actuellement, autour d'une dépression qui est centrée sur l'Europe. Il n'est pas impossible qu'il ne reste pas grand-chose ou presque rien quand ça arrivera à nous par l'ouest.
Maintenant, les prévisions. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est.
Tandis que le nuage radioactif semble s'arrêter à la frontière française, à Tchernobyl, on verse des sacs de sable et de bore dans le réacteur. On arrose les routes, les maisons, on lave les corps. Un cortège incessant d'humains et de machines est au travail. On retourne la terre, on jette les épaves ou on les enterre, on porte les végétaux sur des civières. Les animaux de compagnie, quant à eux, ont été éliminés au lendemain de la catastrophe.
Le téléphone sonne au 45 24 7000. Et au téléphone sonne ce soir la sécurité nucléaire en question.
Bonsoir, vous êtes sur l'antenne.
Bonsoir. Comment on peut s'informer autrement que par les administrations compétentes, c'est-à-dire commissariat d'énergie atomique, protection civile, EDF, qui sont certainement compétentes, mais à mon avis, quand même très partiales. Mais le rôle de ces administrations est d'informer, mais dans tous les cas de rassurer, et de rassurer d'autant plus si le risque est important.
François Cognier.
Peut-être rassurant, mais en même temps, ce qui est important pour nous, c'est d'être aussi rassuré. C'est-à-dire que j'aurais de la peine à faire ce métier si je n'étais pas moi-même rassuré. Donc, je crois que ça n'est pas tout à fait le problème de fond qui se pose. Ceci étant, il est vrai que nous avons toujours eu un problème pour arriver à faire passer l'information. Nous avons un domaine extrêmement technique, aussi bien pour...
Journal de Vladimir Yatskevitch.
3 juin. Hier, l'académicien Velikov est venu ici. J'ai écouté son intervention. Il a dit qu'à la mi-mai, il y avait un risque de réaction en chaîne incontrôlée et donc d'une véritable explosion nucléaire. Mais aujourd'hui, tout est derrière nous. Il a raconté que des hélicoptères avaient jeté des sacs de sable et de plomb dans le réacteur fumant, mais qu'ils en avaient tant fait que les fondations s'étaient fissurées. Si la radioactivité se propageait dans la rivière, Kiev se retrouverait sans eau. Ils ont commencé à construire un sarcophage. Il affirme que les habitants de Gomel ont été exposés à une faible dose, pas plus de 0,5 röntgen par an. Lui-même, même avant l'accident, a reçu 5 röntgen et rien de grave. Il a dit « ne cédez pas à la radiophobie ». L'académicien feinte. Sa dose est due à une exposition externe au rayonnement, alors que la nôtre résulte d'une exposition interne à cause de la radioactivité de notre alimentation et des poussières inhalées. Et la différence d'impact sur l'organisme est énorme.
Oui, allô ?
Oui, nous vous écoutons.
Les accidents nucléaires sont-ils un sujet tabou en France et dans le monde ? Et quand cessera-t-on d'atténuer les gravités sur l'environnement de l'accident nucléaire ?
Jacques Leclerc, vous voulez répondre ?
Je ne crois pas qu'on fasse un tabou de la sûreté, qu'on fasse un tabou des accidents. Et sur tous les domaines, à chaque fois, nous avons essayé d'apporter les réponses les plus précises, les plus exhaustives, au niveau national comme au niveau international.
9 mai.
La presse britannique explique que les ingénieurs soviétiques sont en train de creuser en dessous de la centrale pour éviter que le noyau du réacteur en fondant ne traverse son socle et ne pollue toute la région. C'est d'ailleurs la grande crainte des experts ouest-allemands. Le cœur en fusion qui viendrait pénétrer la masse terrestre, c'est l'accident le plus grave qui pourrait arriver dans ce domaine, c'est ce que l'on appelle le syndrome chinois.
Ces informations alarmantes ont donc circulé toute la journée jusqu'à ce que le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Hans Blix, remette les pendules à l'heure. Hans Blix a survolé le site de Tchernobyl et rentré à Moscou, notre correspondant Ulysse Gosset lui a demandé s'il avait pu constater que ce réacteur brûlait toujours.
Non, le feu n'existe plus au réacteur numéro 4, mais la température reste assez haute.
Journal de Vladimir Yatskevitch.
10 juin. Des médecins sont venus en nombre à Kiev pour sauver ceux qui meurent de la maladie des rayons. Conférence de presse, un célèbre spécialiste de la grève de moelle osseuse, l'air très heureux, sourire américain, en short, et pour une raison inconnue, en tongs.
Nous vous écoutons.
Oui, allô. Considère-t-on cet accident comme une fatalité nécessaire due au progrès ou comme la conséquence de la rentabilité économique à court terme ?
Bien, alors qui veut répondre ?
Je peux tenter une première réponse.
François Cognier.
Fatalité nécessaire, certainement pas. Il est certain que des accidents de ce genre ne doivent pas se produire et nous devons faire tout pour éviter les accidents. C'est vraiment un souci absolument permanent et ça n'est pas une fatalité nécessaire du grand développement industriel. Conséquence de la rentabilité, il est évident que pour réaliser des grands processus industriels comme cela, il faut des moyens techniques, technologiques, qui posent souvent des problèmes. Et pour en avoir discuté avec des responsables d'URSS, je sais que c'est un de leurs soucis.
С момента аварии прошло 25 недель. Всего 25 недель.
25 semaines se sont écoulées depuis l'accident. Seulement 25 semaines. L'accident a mis sous tension l'équilibre énergétique du pays. Et les réacteurs restés intacts devraient dès que possible commencer à rattraper le retard. Le premier réacteur fonctionne déjà. On est en train de relancer le deuxième.
Les liquidateurs ont eu des tâches énormes.
Galia Ackermann.
Parce qu'il ne s'agit pas simplement de décontaminer les environs, surtout les abords de la centrale. Ensuite, construire le sarcophage, c'était aussi les liquidateurs. Il y avait d'énormes travaux aquatiques pour empêcher les radionucléides de passer dans les eaux souterraines ou dans les eaux des petits ruisseaux, etc., qui donc tombaient dans la rivière de Pripyat. Et la rivière de Pripyat est un affluent de Dniepr. C'est-à-dire que si les radionucléides en masse passaient dans Pripyat, ensuite, toute l'Ukraine aurait eu de l'eau contaminée et c'est la principale source d'alimentation en eau potable, etc. Mais il faut aussi ne pas oublier une chose, c'est très important, c'est qu'une partie de ces travaux n'aurait pas été nécessaire si la direction soviétique n'avait pas voulu à tout prix remettre en marche la centrale. Et remettre en marche la centrale était un point de fierté parce que le communisme devait vaincre l'atome et pas l'inverse.
À suivre, le procès de l'atome.